mieux.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Rwandaise Valentine Rugwabiza est la nouvelle chef de la MINUSCA et représentante spéciale de l'ONU pour la Centrafrique. Nommée fin février par le secrétaire général des Nations Unies, elle succède au Sénégalais Mankeur Ndiaye. Madame Rugwabiza a travaillé pendant plus de 30 ans sur les questions de développement et de sécurité en Afrique. Depuis 2016, elle a été représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies et ambassadrice non résidente du Rwanda en Colombie et en Jamaïque. Elle a par ailleurs été ministre des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est et directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce. Au Maroc, la justice a condamné le 22 mars deux professeurs d'université à 1 an et à 18 mois de prison ferme pour harcèlement sexuel contre des étudiantes. Deux autres poursuivis dans la même affaire dite de sexe contre des bonnes notes ont été relaxés. Les quatre enseignants de l'université Hassan Ier de Settat étaient poursuivis pour incitation à la débauche, discrimination fondée sur le genre et recours à la violence contre des femmes. Deux étudiantes qui s'étaient constituées partie civile vont recevoir chacune des dommages-intérêts de 60 000 dirhams. Par ailleurs, la cour d'appel de Settat a confirmé la veille la peine de 2 ans de prison ferme contre un autre professeur condamné pour attentat à la pudeur avec violence dans la même affaire. Pour rappel, à Tanger, un professeur a été condamné en février à 1 an de prison ferme pour harcèlement sexuel contre une étudiante. Les Philippines ont relevé l'âge du consentement sexuel à 16 ans, modifiant une loi de près de 100 ans. En vertu de la loi du 4 mars 2022, les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans sont passibles d'une peine maximale de 40 ans de prison. Les couples adolescents seront exemptés de cette loi si leur différence d'âge ne dépasse pas 3 ans. Et si les deux jeunes sont consentants. Selon la loi de 1930, l'âge du consentement sexuel était de 12 ans. Il est très important d'avoir un âge clair pour déterminer le viol statutaire, souligne Margarita Ardivilla, spécialiste de l'UNICEF aux Philippines. Une étude nationale montre qu'un enfant sur 5 âgé de 13 à 17 ans a subi des violences sexuelles. Les militants des droits humains disent toutefois attendre de voir si la nouvelle loi sera appliquée. En janvier, le président Rodrigo Duterte a signé une loi interdisant les mariages d'enfants dans un pays où une fille sur 6 est mariée avant 18 ans. Le divorce est illégal aux Philippines. Le Bangladesh va interdire les questionnements visant à prouver le caractère immoral des victimes de viol dans les affaires pénales. La loi sur la preuve, datant de l'ère coloniale britannique, est régulièrement utilisée afin de discréditer le témoignage des victimes lors des enquêtes de police et de contre-interrogatoires dans les tribunaux. En 2021, une coalition d'organisations de défense des droits humains s'est tournée vers la plus haute juridiction pour exiger son abrogation. Le cabinet de la première ministre Sheikh Hasina s'est ainsi résolu à supprimer les dispositions de la loi relative aux preuves de moralité. Le Parlement devrait officialiser cette décision d'ici juin. Selon l'organisation locale de défense des droits des femmes, Naripoko, sur des milliers de viols dans 6 districts entre 2011 et 2018, seules 5 personnes ont été condamnées.
Parole de femme.
Trois Africaines figurent parmi les 12 récipiendaires du prix international Femmes de Courage 2022, décerné par le département d'État américain. Il s'agit de la Libérienne Fassia Boyenoaris, la Sud-Africaine Wekshanga Pasco et la Libyenne Najla Mangouche. Chaque année, ce prix honore des femmes du monde entier pour avoir combattu la corruption, la violence sexiste et la discrimination et qui aide à bâtir des sociétés plus ouvertes et pacifiques. Retour sur cette 16e édition à travers un reportage de Catherine Gibson, le récit est de Jacques Aristide.
Célébrer les femmes qui font preuve de bravoure et continuer à braquer les projecteurs sur les dangers auxquels elles sont confrontées aux quatre coins du globe. Quelques-uns des objectifs du prix de la femme de courage, remis cette année peu après la journée internationale de la femme. L'occasion également d'évoquer la situation des Ukrainiennes. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Des millions d'Ukrainiennes enfouissent leur pays avec leur famille et davantage sont restées pour aider leur pays à lutter contre la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie. J'en ai vu beaucoup à la frontière avec la Pologne il y a à peine une semaine. Et c'est quelque chose qui reste ancré dans votre esprit et votre mémoire. Vous voyez des femmes traverser la frontière, des enfants avec elles, pour fuir l'agression russe.
Les 12 femmes honorées cette année font toutes des efforts pour promouvoir la paix et la démocratie dans leurs pays respectifs.
Les femmes de courage de cette année rendent notre monde plus pacifique, plus juste sur 4 continents. Elles s'attaquent à des défis complexes allant du crime organisé à la dégradation de l'environnement. Elles font progresser les droits des femmes, des filles, des LGBTQ ainsi que ceux de personnes et d'autres groupes marginalisés. Et malgré le harcèlement, la violence, l'emprisonnement, elles persistent.
Parmi les femmes récompensées cette année, la militante libérienne des droits des femmes, Fassia Boyenoaris.
Sa bravoure face à des contre-manifestants agressifs et aux forces de sécurité a été décisive lors d'une manifestation anti-viol de 3 jours en août 2020, ce qui a inéluctablement conduit le président George Weah à déclarer une urgence nationale et annoncer de nouvelles initiatives cruciales pour ce qui est de la protection des femmes au Libéria.
Ces femmes ont redéfini le courage, estime Najla Mangouche, lauréate du prix. Elle est la première femme ministre des Affaires étrangères de la Libye. Pour Jill Biden, la première dame des États-Unis, raconter le courage de ces femmes fait avancer la cause féminine partout dans le monde.
À toutes les femmes courageuses, celles qui luttent contre l'injustice en Amérique latine ou qui espèrent apprendre au Moyen-Orient, qui travaillent pour la démocratie et la stabilité en Europe, qui protègent leurs familles en Afrique subsaharienne ou qui s'élèvent contre la violence sexiste en Asie, nous continuerons à travailler avec passion et persévérance au nom du développement et la démocratie pour dire non à ceux qui souhaitent vous faire taire et nous raconterons vos histoires, même lorsque vous ne le pouvez pas.
Plus de 167 femmes issues d'une dizaine de pays ont reçu le prix international de la femme de courage depuis 2007.
En Centrafrique, de nombreuses femmes affectées par la crise sécuritaire durant près d'une décennie se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille. Beaucoup tentent de s'en sortir dans de petites activités génératrices de revenus, tandis que d'autres se frayent un chemin dans les secteurs encore dominés par les hommes. C'est le cas de Ren Bendima, ingénieur en électromécanique pour la Société nationale de distribution d'électricité. Son portrait avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, qui l'a rencontré.
Là, c'est un groupe électrogène. Il fournit 2,2 MW. On le met en service comme un appoint pour permettre à la centrale de Bangui de fonctionner.
Nous rencontrons la jeune femme âgée de 27 ans dans son lieu de travail à l'énergie centrafricaine Enerka. Combinaison de couleur bleue avec l'inscription Enerka derrière, casque de protection sur la tête, elle est dans sa tenue de travail. Devant une grosse machine, elle relève des chiffres qui s'affichent sur un écran.
Je suis ingénieur des travaux en électromécanique. À l'INERCA, je suis chef de car numéro 1 à la sous-station B. Mon travail est que on vient le matin, on est là, on observe les paramètres, la tension, la fréquence, pour voir si il y a dépassement de tension ou que les paramètres ne sont pas normaux. On signale ça pour éviter les déclenchements. Pour contrôler les tensions et les paramètres, on a les tableaux qui sont là en face de nous.
Dans ce secteur dominé par les hommes, les femmes sont rares. Mais Ren compte s'affirmer grâce à ses compétences.
Moi, j'aime trop ce métier parce que quand je vois les hommes faire ça, là, ça me plaît beaucoup. Et souvent, les filles disent que non, ce que les hommes font, les femmes ne pouvaient pas le faire alors qu'eux-mêmes, ils se trompent. Quand un homme travaille, tu vois, ça te plaît. Une femme aussi peut faire ce que les hommes font. Il n'y a pas de difficulté. Tu connais ton travail, tu fais ton travail et là, tu es à l'aise.
Maxime Boussa est collègue de Ren. Il a si à sa juste valeur le travail effectué par la jeune femme.
C'est l'une des rares femmes dans le domaine de l'électricité et je la trouve excellente. 75 à 80% elle répond vraiment aux besoins de l'entreprise. Souvent s'il y a des trucs qui la dépassent, elle ne manque pas de faire l'appel à ses supérieurs de pouvoir l'aider.
Chef de car numéro 1 à la sous-section B de l'INERCA, Ren attire aussi l'admiration d'Evody, une de ses collègues.
Ren est travailleuse et surtout une bonne conseillère. C'est-à-dire du moment où tu te sens mal, où tu n'arrives même pas à manœuvrer, du coup où tu es stressé, tu viens t'approcher auprès d'elle, elle va te conseiller. En quelque sorte, elle va te réconforter. C'est une femme battante.
Le plus dur pour une femme qui travaille dans ce secteur, c'est la fusion entre la vie professionnelle et la vie de famille. Mère d'une fille de 4 ans, Ren nous partage son expérience.
Ça ne me pose pas de problème. Je viens à mon travail. Quand je finis, je rentre à la maison, je fais mes trucs. Parce que moi, je gagne mon argent, là, ça m'aide à m'occuper de mon foyer, même de mes parents aussi.
Après la crise sécuritaire que la République centrafricaine a connue, de nombreuses femmes s'imposent dans des secteurs autrefois dominés par les hommes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Égalité aujourd'hui pour un avenir durable, tel était le thème de la Journée internationale des droits des femmes 2022. On revient sur cette journée au Bénin, où le gouvernement a invité à la reconnaissance de la contribution des femmes et des filles qui jouent un rôle considérable dans la société et au plan économique. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleura Dandé, a recueilli des réactions sur la situation de la gente féminine dans son pays.
Le président béninois Patrice Talon a rappelé à l'occasion de la Journée internationale de la femme la nécessité de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement du Bénin. Alimatou Badarou est la coordonnatrice nationale des organisations des femmes républicaines. Elle pense que la situation a évolué en matière de respect des droits de la femme au Bénin.
Bien sûr, il y a eu pas mal d'avancées au Bénin et des avancées significatives. Vous savez qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été votées et ces derniers temps-ci, pour renforcer des lois existantes et ce, pour aller dans le sens de la discrimination positive et permettre aux femmes quand même de retrouver un peu leur honneur.
Pour Asikiwa, artiste béninoise, le 8 mars est pour elle une journée de réflexion sur la violence dans son métier. Elle croise bien de femmes violentées.
Ce n'est pas de la joie qui m'anime, c'est de la tristesse plutôt. Et c'est du ressenti également pour ces femmes qui sont violées, qui sont souillées et qui malheureusement s'en sortent avec une grossesse. Et vous vous imaginez, elles gardent cet enfant. Il y en a qui sont courageuses. Elles gardent l'enfant. Et en regardant cet enfant tous les jours, vous imaginez ce qu'elles doivent penser. Vous imaginez les pleurs, les larmes qu'elles doivent couler.
Qu'elles soient fonctionnaires ou commerçantes, les femmes béninoises sont conscientes de l'importance de cette journée qui est une invitation à plus de détermination pour le respect des droits de la femme.
Je suis hyper fière d'être une femme parce que je trouve que la femme est l'être le plus merveilleux du monde. Merci au Créateur d'avoir créé les femmes.
Je sais que les femmes qui m'écoutent actuellement sont capables d'apporter quelque chose à cette journée-là qui est changement au niveau de notre patrie, le Bénin. Il faudrait qu'on soit unis et que nous nous entraidions en tant que femmes.
Aujourd'hui, les femmes béninoises ont pris d'assaut tous les secteurs d'activité, mais sont en nombre infime au poste décisionnel. Pour beaucoup, le combat doit s'accentuer à ce niveau-là.
Que les femmes aillent de l'avant parce qu'elles ont du talent, elles ont de la compétence. Maintenant, il leur faut de la détermination, du courage et faire fi aux candidats. Et c'est sûr qu'elles seront un peu plus positionnées.
Ça change parce que le monde est en train de s'autodétruire presque. Et pour sauver le monde, les femmes doivent être en avant. Pourquoi ? Parce que c'est les valeurs féminines qui vont sauver la terre. C'est la patience, c'est le partage, c'est la compassion, c'est la non-violence, c'est la compréhension, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Et tout ça, c'est beaucoup plus développé par les femmes. Donc nous avons tous intérêt à donner un peu plus de valeur à la femme.
C'est l'occasion de rappeler la nécessité de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays, a rappelé le président Patrice Talon qui dit avoir inscrit au premier rang des valeurs qui caractériseront désormais le Bénin, la promotion du leadership féminin et l'accroissement du pouvoir économique de la femme. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Si jeunesse pouvait.
La Ligue africaine de basketball a profité de la Journée internationale des droits des femmes pour organiser une table ronde autour du thème « Construire une carrière dans l'écosystème du sport et du divertissement en tant que femme ». Une thématique qui a permis à des femmes au cœur du basketball de partager leur vécu. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Passionnée de basketball depuis le bas âge, coach Liz Mills s'est jetée dans l'univers de la balle orange dès ses 16 ans. Au fil des années, elle gravit les échelons jusqu'à devenir la première femme au monde à diriger une équipe nationale masculine. Aujourd'hui, elle est également la seule dame à la tête d'une équipe dans la Basketball Africa League.
J'ai commencé à entraîner en Zambie. Je suis allée à un tournoi ouvert seulement aux équipes masculines. Et je me suis dit, pas d'équipe féminine et je suis entraîneur. Donc, que vais-je faire? Je marche vers cette équipe et j'ai dit, puis-je diriger une séance d'entraînement? De là, je suis devenue entraîneur principal, jusqu'à aller chercher le titre national. J'ai alors poursuivi ma carrière en Afrique au cours des 10 dernières années. J'ai été séduite par le continent. J'ai eu la chance et le privilège de travailler avec différentes équipes ici. On me dit souvent que tu es la première femme qui fait ceci, qui a fait cela, et je suis fière de cet aboutissement en tant que femme. Mais je suis surtout fière d'être une coach tout simplement.
Where I am just a head coach.
Une fière partagée par l'ancienne championne de WNBA, Monica Rogers, qui est actuellement en poste au sein de la NBA Academy. Pour elle, les femmes amènent une énergie positive incroyable dans le basketball en particulier.
I played for a team called the Minnesota Lynx.
J'ai joué pour les Lynx de Minnesota, une équipe qui a été mauvaise pendant très très longtemps. Mais une fois que moi et quelques autres avons rejoint cette équipe, nous avons remporté 4 championnats. Après notre 2e titre, des femmes très dévouées venaient nous voir. C'était des femmes plus âgées qui ont soutenu cette équipe depuis le tout début. Et elles étaient en larmes et exprimaient beaucoup de fierté. Et pour moi, quand une femme gagne, tout le monde gagne. Je ne le dis pas seulement dans le cadre du sport, ça peut être dans le monde des des affaires, ça peut être n'importe où. Quand une femme tente sa chance, qu'elle soit la première ou la pionnière, et fait un excellent travail à ce poste, elle ouvre la voie à d'autres femmes qui viennent derrière elle. Je pense que c'est important.
And I think that's important.
Au-delà du cadre typiquement sportif, l'écosystème du basketball offre également des perspectives à de jeunes africaines. La Rwandaise Aïdé Ndayishimiye, membre du staff de la Ball, affirme qu'elle a bénéficié d'un soutien positif dès la première saison de la Ligue.
J'étais entourée de gens qui voulaient me mettre de l'avant justement pour me donner une opportunité parce que j'étais une femme. Donc mon expérience pour moi a toujours été très très positive. J'étais au Rwanda, je viens du Rwanda. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de femmes au gouvernement. Et c'est la mission du Rwanda en fait, c'est de mettre les femmes de l'avant et leur donner toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir. Le jour où j'ai réalisé qu'ils me mettaient de l'avant, non seulement pour mes compétences, mais aussi parce que j'étais une femme, c'était très rafraîchissant de voir.
Pour Amadou Galofal, président de la BAL, la présence des femmes dans l'écosystème du sport et du basketball en particulier est importante, car elle est essentielle dans le développement économique qu'il veut impulser à travers cette ligue. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
On termine LMF par une escale à Goma, capitale du Nord Kivu en République démocratique du Congo, où s'est tenue la troisième édition du festival urbain Adizi. Pour l'édition 2022, l'événement culturel a sensibilisé le public sur l'égalité des genres et la place de la femme dans le milieu artistique. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi a tendu son micro à des artistes sur place.
Adizi Urban Festival est une plateforme qui réunit depuis 2020 des artistes nationaux et internationaux engagés dans la consolidation de la paix et la promotion des droits de l'homme dans le monde. Cette année, les organisateurs ont opté pour le thème « Rêve elle » afin de mettre en avant la place des femmes, notamment les artistes et les danseuses urbaines, et d'élever leurs capacités artistiques dans les domaines de l'art contemporain.
Nous avons décidé pour cette troisième édition de placer la femme au centre des activités. La lutte pour les droits de la femme ne doit pas seulement se faire au mois de mars. La lutte, elle est toujours continuelle et nous avons préféré mettre la femme au centre de notre festival puisque la femme aussi est artiste, la femme est aussi un pilier dans notre société et elle a aussi un apport à apporter pour tout le pays. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes appelés à collaborer entre hommes et femmes. La femme, elle peut aussi faire tout comme l'homme est capable de faire.
La particularité de ce festival et que les spectacles de danse, souvent mêlés de slam et de théâtre, se déroulent sur les trottoirs, les allées et les avenues. L'objectif est de faire passer le message à un large public.
Mes prestations sont une thérapie à tous mes téléspectateurs parce que c'est un message de sensibilisation. C'est un message puisé dans la profondeur de moi-même. C'est qu'à chaque fois que je lance un message, c'est que j'ai déjà constaté un problème que j'aimerais changer ou bien revendiquer sans violence, mais seulement avec mes mots. Et quand je parle, c'est que je suis en train de soigner.
Parmi les spectateurs, d'aucuns ont promis de suivre les combats pour l'égalité des sexes.
Ça m'a fait plaisir lorsqu'on a chanté concernant la paix. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Lorsqu'il y a homme, il faut qu'il y ait aussi une femme. S'il y a la contribution d'un homme, et aussi, il peut nécessiter la contribution d'une femme. C'est pourquoi je suis très heureux parce qu'on a déjà sensibilisé concernant ça. Et c'est bon, vraiment, chez moi, c'est bon.
Durant ce festival, les organisateurs ont également mis en place des conférences-débats sur plusieurs thèmes abordant les discriminations et les violences morales ou physiques exercées sur les femmes. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique. Goma.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
À
Arrête.